Lyon demain, histoire lyonnaise.
Bienvenue à Marcy-l'Étoile, aux portes de Lyon, sur un site emblématique de l'histoire de la santé publique et des biotechnologies. Aujourd'hui, nous poussons les portes du musée des sciences biologiques Dr Mérieux pour explorer les grandes avancées de la lutte contre les maladies infectieuses. Pour nous faire découvrir ses collections et comprendre les défis de la biologie d'hier et d'aujourd'hui, c'est Esther Leburg, directrice du développement du musée, qui nous sert de guide.
Ici, à Marcy-l'Étoile, vous êtes donc au musée de sciences biologiques Dr Mérieux, qui est un musée qui a été créé en 2007 et dont le parcours permanent a été complètement refondu il y a 2 ans, donc il a rouvert en 2024. Et donc on propose une exposition permanente qui montre c'est la découverte de la biologie, de la microbiologie et de la lutte contre les maladies infectieuses avec un prisme One Health, c'est-à-dire qu'on montre les liens et l'interdépendance entre santé humaine, santé animale et santé environnementale.
On fait une petite déambulation ?
On fait une déambulation.
Alors on rentre dans un premier espace là où on nous explique un petit peu ce qu'est l'homme dans la nature, c'est ça ?
C'est ça. L'objectif c'est de démarrer cette visite du musée en nous mettant nous, les êtres humains, à notre bonne place dans l'ensemble du vivant sur la planète. L'ensemble du vivant sur la planète c'est avant tout beaucoup de microbes et nous ne sommes qu'une petite partie de ce vivant, donc on se remet à notre bonne place, un peu d'humilité avant de découvrir le monde des microbes et la lutte contre les maladies infectieuses.
Alors on rentre dans le sujet là, cette fois-ci, on rentre vraiment dans la santé, on rentre dans l'histoire.
On attaque cette histoire à l'Antiquité, mais la vérité c'est que dès le Néolithique, les humains auront maille à partir avec les microbes dès la domestication, le Néolithique. On vit, on côtoie les animaux et l'humain va être touché par les maladies infectieuses. Mais à partir de l'Antiquité et à partir d'Hippocrate, on va essayer de faire sens de ces maladies qui nous affectent avec différentes théories. À l'époque d'Hippocrate, on parle de la théorie des humeurs. Un peu plus tard, on parlera de la théorie des miasmes, notamment au Moyen-Âge, une époque qui est marquée par les terribles épidémies de peste. Et puis à l'époque, on souffre de maladies, on sait pas encore qu'elles sont dues à des micro-organismes, parce qu'à vrai dire, on ne peut pas non plus les voir. Donc un peu plus loin dans l'histoire et dans le parcours de visite au musée, on découvre le premier microscope de l'histoire, inventé par un drapier néerlandais. Donc un petit microscope qu'on voit là dans le parcours de visite et qui grossit quand même à 270 fois. Et
donc il cherchait lui à voir les textiles, c'est ça?
Ce monsieur, il voulait avant tout s'assurer que ce qu'il vendait, les tissus qu'il vendait, étaient de bonne qualité. Et vu que c'était avant tout un esprit très curieux, il va pas s'arrêter aux tissus, il va investiguer ce qu'il y a dans les flaques d'eau, dans la salive de sa bouche, dans la bière. Et en fait, ça va être le premier observateur de microbes, sans savoir à l'époque c'est des microbes. Microbe, c'est un mot qui n'existe pas encore. Lui, il va appeler ça des animalcules, des petits animaux.
On peut le décrire, ce microscope, parce qu'on est en radio.
On peut le décrire, ce petit microscope. Il est vraiment tout petit. Je dirais qu'il fait 4 cm. Il est tout doré, celui qu'on a au musée. En fait, sur ce petit microscope, il y a une petite pique sur laquelle on va pouvoir piquer l'échantillon qu'on veut observer. Et on voit avec l'illustration qu'on a à côté au musée qu'on va le tenir devant nous, avec derrière le microscope une source de lumière. Et c'est cette source de lumière qui, en passant par les lentilles grossissantes, vont révéler l'échantillon à l'observation.
Il y a beaucoup de chevaux dans cette exposition. Pourquoi cette allusion au cheval ?
Il y a beaucoup de chevaux. Il y a des chevaux dès l'époque moderne, parce qu'on parle, on est sur le territoire de la métropole de Lyon. Lyon, c'est le berceau de la médecine vétérinaire, parce que c'est là que se crée la première école vétérinaire au monde, par Claude Bourgelat, qui est l'écuyer du roi à l'époque. Le cheval, c'est considéré comme un animal noble. C'est le premier qui va vraiment être étudié, qui va permettre d'enrichir les connaissances en anatomie animale. Et ce lien entre l'humain et l'animal, médecine humaine, vétérinaire, c'est un lien qui ne va plus cesser d'exister. C'est un lien qui va permettre, par l'observation des maladies qui touchent la vache, de créer le premier vaccin chez l'homme, le vaccin contre la variole. C'est un lien qu'on ne va plus jamais quitter, parce qu'en fait, une maladie infectieuse, les microbes ne connaissent pas de frontières. Donc si on veut traiter la menace infectieuse, il faut agir en santé humaine, en santé animale, et puis on verra aussi plus tard en santé, en préservation des écosystèmes.
Alors on continue, qu'est-ce qu'on a ici? On a une allusion à Pasteur. Quel est le lien entre Pasteur et Mérieux?
Oui, Pasteur, c'est le pionnier de la microbiologie avec le médecin allemand Robert Koch. C'est à eux qu'on doit cette théorie qui va permettre d'ailleurs de rendre caduques toutes les théories préexistantes. Il n'y aura plus de théorie des miasmes, il n'y aura plus de théorie des humeurs. Grâce à Pasteur et Koch, on comprend qu'une maladie, elle est liée à un microbe. Et Louis Pasteur, le grand fait scientifique de sa carrière, c'est son grand succès, c'est la vaccination contre la rage. Il va créer l'Institut Pasteur. Et l'Institut Pasteur, on va y retrouver Marcel Mérieux en 1894. Marcel Mérieux n'était pas du tout destiné à être spécialiste des maladies infectieuses.
Il était d'une famille de soyeux.
Il a étudié la chimie pour maîtriser la science des colorants, notamment éteindre les étoffes.
Non, on voit déjà le rapport qu'il y a entre la chimie et effectivement...
Il y a un petit pas de côté, parce que lui, les colorants, en fait, il va s'en servir pour identifier les microbes. Donc on retrouve Marcel Merlieux dans l'équipe de Louis Pasteur en 1894 à Paris. Il va surtout collaborer avec Émile Roux, qui est son bras droit, et qui va lui apprendre la sérothérapie, c'est-à-dire comment on fabrique des sérums, les sérums étant des produits qui vont permettre de soigner les maladies infectieuses chez l'humain comme l'animal. Donc Marcel Merlieux passe une année à l'Institut Pasteur, puis il revient à Lyon, où il va créer son premier laboratoire en 1897.
Qui se trouve à l'Hôtel Dieu, c'est ça ?
Qui se trouve à l'époque à l'Hôtel Dieu.
Il en reste quelque chose ?
Pas à ma connaissance. Non. Donc premier laboratoire où il fait aussi installer son orgue, parce que c'est un monsieur qui
C'était un musicien également, d'accord.
C'était un musicien dont on peut entendre une de ses œuvres ici au musée.
Alors là, on a des microscopes, on a tout le nécessaire de chimie de Marcel Merlieux.
Là, vous voyez le matériel de laboratoire de Marcel Merlieux. Vous voyez un microscope qui lui a appartenu. Donc c'est un microscope optique. Ça veut dire qu'à cette époque-là, avec ces microscopes, on peut déjà observer des bactéries, des parasites, des champignons. On ne peut pas observer de virus. Ceux-là sont beaucoup plus petits. On les observera que plus tard, dans les années 1930. C'est une technologie différente.
Il va réussir à les vaincre en fait sans les avoir vus.
Ouais, ce qui est fascinant, c'est que Louis Pasteur, quand il combat le virus de la rage, il ne l'aura jamais vu. Ça, c'est incroyable. Là, vous voyez aussi le matériel de chimie de Marcel Merlieux, parce que donc, on se rappelle, c'est avant tout un chimiste de formation. Et puis les colorants, parce que les colorants, ça permet d'identifier les microbes, de savoir quel type de microbes on a devant nous. Donc ça, c'est des colorants qu'il n'utilisera pas pour la soie, mais pour la microbiologie. Et puis sa trousse de bactériologie qui est ici, où on voit des tubes, des pipettes, un écouvillon. Et elle est estampillée du premier nom de l'institut, qui s'appelle aujourd'hui Institut Merlieux, qui s'appelle à l'époque Institut Biologique Merlieux.
Il y a des objets, des ustensiles, il y a aussi beaucoup de documents dans ce musée.
Il y a beaucoup de documents. On a le cahier de cours de Marcel Merlieux lorsqu'il est étudiant à l'Institut Pasteur. On a aussi là, par exemple, la lettre d'un vétérinaire qui adresse ses remerciements à Marcel Merlieux parce que grâce à son sérum antitétanique, il a pu soigner un de ses chevaux qui souffrait de la maladie. On a des objets, on a beaucoup de documents et d'objets d'époque.
Pourquoi les Merlieux se retrouvent à Marcy-l'Étoile ?
Les Merlieux se retrouvent à Marcy-l'Étoile parce que Marcel Merlieux a besoin d'espace pour sa cavalerie, les chevaux qui lui servent à la production de ses sérums à l'époque. Et que donc il cherche de l'espace et il va acheter des terres à Marcy-l'Étoile. Donc on a là au musée, quand on arrive, une très grande photo où on voit, il y a plus d'un siècle, la cavalerie de Marcel Merlieux à Marcy-l'Étoile, avec un bâtiment derrière qui est aujourd'hui sur le site de l'industriel Sanofi qui est voisin du musée.
Et la commune a été fortement impactée finalement par cette présence, parce qu'aujourd'hui encore, Sanofi est présent aussi.
Aujourd'hui encore, Sanofi est présent, Biomérieux est présent pas très loin, c'est aussi l'héritage et la continuation de l'épopée scientifique industrielle des Merlieux, de Marcel, puis Charles Merlieux après lui, Alain Merlieux et Alexandre Merlieux aujourd'hui. Donc oui, la commune est fortement impactée par cette aventure industrielle, entrepreneuriale.
Alors, il y a beaucoup de films, d'extraits de films, de photos, de voyages, hein, parce que effectivement la famille Merlieux a beaucoup voyagé, parce que traiter finalement la santé, c'est pas uniquement le faire ici en France, dans son jardin. Quoi.
Bah, la menace infectieuse n'a pas de frontières, les virus, les bactéries voyagent librement, et pour lutter efficacement contre ces menaces-là, il faut agir à l'échelle planétaire. Donc très tôt, ils vont avoir cette intervention, ce désir de lutter contre la menace infectieuse sur tous les territoires.
Avec parfois des barrières qui s'effondrent, justement, pour répondre à l'intérêt général, vous nous racontiez tout à l'heure, entre le RSS et la France.
Oui, les collaborations scientifiques ont tendance à perdurer en dépit des aléas géopolitiques. Et c'est ce qui a donné lieu à des collaborations, notamment dans le domaine du vaccin contre la poliomyélite, avec des collaborations qui se sont établies entre des chercheurs, des scientifiques américains, des scientifiques russes, tout ça pour avant tout bénéficier à la santé publique à l'échelle de la planète.
Dites-nous un petit peu ce qu'on voit là, c'est quoi cet engin là ?
Ah, ce qu'on voit ici, c'est un autoclave. Un autoclave, c'est une étuve qui servait à désinfecter. Donc là, elle est conçue par Charles Chamberlain. En fait, les débuts de Marcel Merlieux à Lyon sont aussi marqués par le fait de donner des cours d'asepsie, c'est-à-dire des cours d'hygiène, parce que le premier rempart contre les maladies infectieuses, c'est vraiment l'hygiène. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait des femmes qui mouraient de fièvre puerpérale, et elles mouraient donc lors de l'accouchement, et c'était simplement entre guillemets dû au fait qu'elles se faisaient accoucher par des médecins qui auparavant avaient étudié sur des cadavres. Et en fait, il y avait pas, tant qu'on connaissait pas vraiment les principes de transmission des microbes et comment lutter contre cette transmission-là, il n'y avait pas encore de gain pour la santé publique. Et donc, quand on a compris à quel point l'hygiène était importante, là, on a pu avoir un vrai bénéfice pour la santé, et notamment la santé de ces femmes-là à l'époque.
On passe ensuite dans une salle côté un peu plus moderne, cette fois-ci.
Là, on quitte la partie historique et vous arrivez au labo, entre guillemets. Dans notre petit labo, au musée, on présente 4 familles de micro-organismes. On présente les bactéries, les champignons, les parasites et les virus. Avec, sur une paillasse blanche qui court le long de cette salle, différents spécimens de bactéries. On voit qu'elles ont différentes formes. Et elles ont aussi différents rôles. On voit qu'il y a du bon et du mauvais. On a le lactobacille, qu'on va retrouver notamment dans le yaourt même, pas forcément mauvais. Celui-là, ça va. Mais à côté, on a un streptocoque qui peut être responsable de pneumonie. À côté encore, on a le mycobacterium tuberculosis, qui lui est responsable de la tuberculose. Et de l'autre côté de la paillasse, nous trouvons un champignon, c'est un pénicillium. Le pénicillium roqueforti, par exemple, celui-là, on le trouve dans un fromage qu'on aime bien. On a un parasite qui cause, celui-là, le paludisme. Et on a un virus. Les virus, c'est les plus petits des micro-organismes. Là, c'est le virus du VIH. Et en fonction de ces différents micro-organismes, on va pouvoir les observer avec différentes technologies.
Alors ici, on va voyager un peu dans le monde.
Là, on voyage dans le monde. Et en fait, on comprend jusque-là les liens assez bien au musée entre la médecine humaine et la médecine vétérinaire. Ce qu'on introduit dans cette grande salle du musée, puis c'est une salle assez en profondeur, on devine une planète aussi au loin, c'est les liens avec la médecine, la santé des écosystèmes. C'est-à-dire que la santé humaine et la santé animale, elles sont très dépendantes de la santé de l'environnement qui nous entoure. 60% des maladies qui nous affectent, nous les humains, nous viennent des animaux. Donc c'est très important de comprendre les chaînes de transmission et les perturbations dans les écosystèmes qui induisent des rencontres pas tout à fait normales.
Tant que chacun est à sa place, tout va bien.
Exactement.
Et quand on dépasse un petit peu sa zone de confort, on peut dire.
Voilà.
Là, ça devient dangereux, par exemple, pour la chauve-souris. Quel cas de figure, par exemple, dans le monde, on peut parler là-dessus?
Les virus Andra, en Asie du Sud-Est, c'est un virus dont la chauve-souris est le réservoir. Et ma foi, la chauve-souris a son habitat naturel dans des forêts. Si on coupe les forêts, que les chauves-souris doivent migrer, elles vont trouver refuge dans d'autres arbres. On coupe les forêts notamment pour des cultures de palmiers. Elles vont se retrouver au-dessus d'élevages de porcs. Elles vont excréter le virus, vont contaminer les fruits que vont manger les porcs, et les porcs qui sont destinés à l'alimentation humaine, et aussi elles vont pouvoir contaminer les personnes qui travaillent autour de ces élevages-là. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des rencontres qui n'auraient jamais dû avoir lieu si on avait respecté l'habitat naturel de la chauve-souris.
La déforestation, on peut dire, a une influence à la fois sur le climat, mais aussi sur la santé de l'homme.
Oui, les écosystèmes ont leur rôle, chaque espèce a sa place. Si on érode la biodiversité, si on ne protège pas la biodiversité et les espaces naturels qui l'hébergent, on se retrouve nous plus à risque, les animaux, les humains, de voir des émergences épidémiques et voire d'arriver jusqu'à une pandémie comme ça a été le cas avec le Covid.
On perd espoir un petit peu dans cette salle.
On perd un peu l'espoir dans cette salle, mais il faut comprendre la menace pour comprendre comment on va lutter contre la menace, parce qu'on a des armes, on n'est pas démunis, loin de là. Et dans la salle qui suit dans le musée, on présente 3 types de réponses face à la menace infectieuse. La première étant les règles d'hygiène qu'on évoquait auparavant et qui sont cruciales. Je pense notamment aux territoires où on n'a pas forcément accès aux vaccins, aux diagnostics. Ce qui rend les règles d'hygiène possibles, c'est l'accès à l'eau potable aussi, l'assainissement, cétisme cuvette, règles de protection pour éviter les maladies sexuellement transmissibles également. L'hygiène des mains, qui est très importante, et on s'est beaucoup lavé les mains il y a quelques années, mais il faut continuer à beaucoup se laver les mains. On présente aussi le vaccin dans cette salle. Le vaccin, c'est préventif. C'est avant que l'infection ne soit là, on a les moyens de se protéger. On explique les grands succès des vaccins. Aujourd'hui, ils ont permis d'éradiquer 2 maladies infectieuses, une chez l'être humain, la variole, une chez les animaux, c'est la peste bovine. Donc on peut se vacciner, on a des vaccins à tout âge de la vie, dans tout type de situation. Si on voyage à l'étranger, on va avoir d'autres vaccins. Et la vaccination, c'est avant tout un acte citoyen. On a besoin, pour chaque maladie, qu'il y ait un certain quota de la population qui soit vaccinée pour protéger l'ensemble, notamment les personnes qui, elles, ne peuvent pas se faire vacciner.
Donc là, vous nous montrez, par exemple, avec la rougeole.
Avec la rougeole, on a une petite simulation au musée sur notre paillasse. On a une simulation qui se développe en 3 temps. On a une classe d'enfants. Dans le premier rond qu'on a devant nous, on a donc des silhouettes d'enfants et on n'a aucun enfant vacciné. Et là, on voit qu'on a seulement 3 enfants qui sont indemnes de la maladie, tous les autres développent la rougeole. Dans le deuxième cas, on a 4 enfants vaccinés, on voit que ça permet d'en protéger 6. C'est encore pas suffisant. Et dans la troisième simulation, là, on atteint le seuil de vaccination qui est recommandé pour la rougeole, qui est de 95% de la population. C'est une maladie très contagieuse. Et là, on voit qu'en vaccinant 95% des enfants, ça permet de protéger un enfant qu'on ne peut pas vacciner. Et il n'y a plus qu'un enfant malade. Et puis la troisième arme qu'on a pour lutter contre les maladies infectieuses, c'est le diagnostic. Le diagnostic, on va pouvoir l'appliquer à des échantillons qui viennent du corps humain, du sang, les sécrétions nasales, l'urine, les selles. On va aussi tester les produits alimentaires pour prévenir les risques sanitaires liés à l'alimentation. On a différentes technologies qu'on va utiliser pour le diagnostic. Alors c'est vrai que depuis le Covid, on connaît le PCR, on connaît la biologie moléculaire. On peut aussi s'appuyer sur des tests d'immunité. Immunoessais. Et puis on peut aussi recourir à des méthodes de microbiologie comme le dispositif, la simulation qu'on présente ici au musée sur cette paillasse et où on va pouvoir simuler une croissance bactérienne sur une boîte de pétri.
Aujourd'hui, on peut dire que c'est acquis ce triptyque santé humaine, santé animale et biodiversité.
Alors ce triptyque qui fait le fondement de l'approche, ce qu'on appelle One Health. Il est intégré, en fait, que ce soit l'OMS, l'Organisation mondiale donc de santé humaine, l'Organisation mondiale de santé animale, le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Tous ces organismes-là en ont fait vraiment leur cheval de bataille. Personne ne travaille en silo sur ces sujets-là. Il y a vraiment une collaboration internationale sur les 3 champs de la santé aujourd'hui, oui.
Qu'est-ce qu'on voit ici ?
Dans cette dernière salle du musée, on présente donc les initiatives à l'échelle mondiale pour lutter contre la menace infectieuse. On sait qu'une émergence locale peut avoir un impact mondial. Donc il faut lutter sur tous les territoires, sans frontières. Et il faut aussi lutter dans une approche, je dirais, de solidarité. Ce qu'on voit aussi dans un coin de cette salle, on a une maquette d'un conteneur qui est équipé d'un laboratoire. C'est un laboratoire P3. Ces conteneurs équipés de laboratoire P3, ils ont été envoyés en 2019 par la Fondation Mérieux pour répondre à l'épidémie d'Ebola qui sévit à l'époque en RDC, pays qui est toujours affecté par des épidémies d'Ebola par ailleurs. Donc ces conteneurs-là que vous voyez devant vous, ils ont été acheminés au Rwanda puis par la route à Goma dans des avions gros porteurs qu'on voit derrière sur une photo sur le tarmac de l'aéroport.
À côté de l'exposition permanente du musée, il y a aussi des expositions temporaires. En ce moment, jusqu'à mai 2027, une exposition là sur le cancer et sur le rapport entre virus et cancer.
C'est une exposition qu'on a développée en partenariat avec le Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS, qui est situé à Gerland, à Lyon. Et donc, ils nous ont accompagnés dans ce projet-là, sachant que dans le même temps, ils ont actuellement devant les grilles du bâtiment à Gerland des panneaux d'exposition qui expliquent les cancers viraux. Donc cette exposition, elle montre 2 visages des virus quand il est question de cancer. À la fois les virus qui vont occasionner des cancers chez l'être humain, et il en existe 9. Et puis d'autres types de virus qui, dans les mains des scientifiques, vont permettre d'intégrer des thérapies innovantes dans le traitement du cancer aujourd'hui.
Donc ces virus, ils sont quoi ? Ils sont domptés par les chercheurs pour
Ils sont mis en sécurité dans un premier temps, puisqu'on fait en sorte qu'ils font en sorte plutôt que ces virus soient rendus inoffensifs et incapables de se multiplier dans les cellules saines. Et ensuite, ils sont utilisés donc dans 3 approches différentes. Nous, on présente les vaccins thérapeutiques, les thérapies cellulaires CAR-T et les virus oncolytiques. C'est ce qu'on appelle des immunothérapies. C'est des traitements qui vont mobiliser le système immunitaire contre le cancer, puisque en fait, quand il y a cancer, c'est qu'il y a défaillance du système immunitaire. Donc il faut le mobiliser.
Et ça, c'est l'avenir du traitement du cancer ?
C'est un des avenirs, une des promesses, en tout cas, un des espoirs aujourd'hui pour les patients atteints de cancer.
Complémentaire à la chimiothérapie, à la radiothérapie
Complémentaire des approches, oui, plus classiques, en tout cas que les patients connaissent déjà, pour certains, de chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie.
Alors, qu'est-ce qui est actuellement sur le marché ? C'est les thérapies cellulaires ?
Les thérapies cellulaires CAR-T. Il y en a déjà actuellement sur le marché. Il y a des vaccins thérapeutiques et des virus oncolytiques qui sont en développement, donc en essai clinique. Le vaccin thérapeutique, on va utiliser un virus outil qu'on a mis en sécurité dans un premier temps, et puis on va insérer dans le génome de ce virus outil la carte d'identité des cellules cancéreuses. L'objectif, c'est vraiment que le système immunitaire ensuite soit capable de détecter ces cellules cancéreuses qu'il ne voit plus. Donc on injecte le vaccin thérapeutique au patient. Cette carte d'identité des cellules cancéreuses est présentée aux cellules du système immunitaire, qui va être capable de les reconnaître et qui va se mobiliser pour les détruire. Les thérapies cellulaires CAR-T, ici, c'est une action un peu indirecte du virus outil, c'est-à-dire que dans un premier temps, on va prélever les globules blancs du patient. En laboratoire, les lymphocytes, qui donc sont des cellules immunitaires, vont être armés d'un gène qu'on appelle le gène CAR. C'est pour ça qu'on appelle ça des thérapies cellulaires CAR-T. Et ce gène, il va faire en sorte que le virus outil soit capable de... Enfin, que les lymphocytes soient capables de reconnaître les antigènes présents à la surface des cellules cancéreuses. Le virus va acheminer ce gène dans les lymphocytes du patient. Le lymphocyte est modifié. Il devient un outil de détection des cellules cancéreuses. Ces cellules CAR-T, donc les lymphocytes modifiés, sont réinjectés aux patients. Ils vont patrouiller dans l'organisme et pouvoir détruire les cellules cancéreuses.
Et on travaille même aujourd'hui sur des solutions qui consistent à ne pas sortir les globules blancs. Et...
Il existe aujourd'hui en développement des approches in vivo, donc dans le patient. Nous, ici au musée, on va plutôt présenter les cellules ex vivo, donc la manipulation des lymphocytes en laboratoire. Mais oui, c'est aussi un sujet de recherche.
Et enfin, les virus oncolytiques.
Les virus oncolytiques, là, c'est des virus outils. Donc, on va modifier le génome du virus outil et on va lui ajouter un arsenal thérapeutique, donc des gènes médicaments. Ils vont être injectés aux patients, ces virus oncolytiques, infecter les cellules cancéreuses et les détruire. Et en les détruisant, ils vont aussi libérer des antigènes qui vont sonner en quelque sorte l'alerte du système immunitaire qui va se mobiliser pour attaquer les autres cellules cancéreuses.
Une fois qu'on a visité soit les expositions temporaires, soit l'exposition permanente, quel est le message que vous avez envie que les Lyonnais qui ont visité votre musée retiennent en sortant d'ici ?
Que la santé, c'est l'affaire de tous, la santé publique. Il faut comprendre la menace infectieuse pour lutter contre, parce qu'on est tous capables en fait, de faire des choses à notre niveau, que ce soit sur le respect des santé humaine, animale, environnementale, on est tous capables d'agir. Quand il est question de virus et cancer, ce qu'on présente aussi, c'est les pistes de prévention, c'est la première arme contre le cancer. On peut repartir du musée avec des informations pour connaître les lieux où on peut aller chercher des conseils, des tests, des dépistages anonymes sur le territoire de la métropole de Lyon. Donc c'est important de connaître la grande aventure de la biologie et de la lutte contre les maladies infectieuses et connaître pour pouvoir participer.
Un grand merci à Esther Leburg pour cette visite passionnante et ce voyage au cœur de la recherche biomédicale pour prolonger l'expérience et découvrir à votre tour ce patrimoine scientifique unique. Rendez-vous à Marcy-l'Étoile au musée de sciences biologiques Dr Mérieux.